Lost.
J'ai pas vu, mais je sais.
C'est bon, on y va, monsieur Tom. Bon, alors moi, on se retrouve donc avec presque la même équipe, avec... Quoi ? Si, toi, t'es encore là, toi ? Non, non, mais il fait des conneries. Pour parler des univers partagés, alors, les univers partagés. Le sériphile aime bien regarder plein de séries, tous les genres, tous les styles, et puis parfois, comble du bonheur, deux séries se percutent. Pam ! Depuis longtemps, on a pu voir sur nos écrans des croisements de séries. Alors, parfois... Oh là, la publicité infernale de sur nos écrans, je répète, sur nos écrans. Alors, parfois, on a pu... Ça peut être assez évident parce que l'une des séries est une spin-off de l'autre. Buffy et Angel ont partagé un épisode où le
il y a plus que ça,
ah, laissez-moi finir. Où l'intrigue où l'intrigue démarre dans un et se termine dans l'autre. C'est vraiment ça la particularité.
Du sexe aussi.
Aussi. Idem pour Stargate Atlantis et Stargate SG-1 qui ont partagé 2-3 épisodes. Même ambiance, un style proche. Bon, c'est pas hyper surprenant. Parfois, c'est un créateur suffit à joindre deux séries. Alors, je pense que, notamment, quand la folle Ally McBeal a rencontré le sombre Bobby Donnell dans un crossover Ally McBeal The Practice, qui était un peu particulier. C'est un peu plus surprenant. Alors, moins surprenant, quand c'est... À nouveau, on est dans des styles communs, comme Le Caméléon et Profiler, dans les années 90, qui ont eu plusieurs crossovers, même avec différents profilers. Et puis, parfois, c'est carrément louche, voire dingo, parce qu'on a eu un crossover, par exemple, entre Magnum et Arabesque, qui a vraiment existé. Bon. Si ce type de construction narrative était timide, c'est que les diffuseurs étaient persuadés que le public aurait du mal à suivre. Sauf que le public y regarde de plus en plus de films, de séries, et que cette idée de personnages qui vivent dans un même monde ont des aventures différentes est devenue commune. Grâce à la médiatisation de l'univers des comics, donc c'est presque le fond de commerce, finalement, c'est devenu... beaucoup plus habituel. Marvel a lancé le mouvement, suivi bientôt par presque tout le monde. Les chaînes ne pouvaient pas rester en reste. Et on est passé à des gentils crossovers, à des univers étendus de plus en plus grands. Après l'univers des comics avec Marvel ou DC, on voit que les chaînes s'y mettent. Alors qu'est-ce que ça change dans la façon de raconter des histoires ? Est-ce que c'est principalement marketing ? Est-ce que ça peut finir par lasser le public ? C'est toutes les questions qu'on va se poser. Première question que je vous pose, est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en suivez? Ou est-ce que ça vous plaît en général ou pas, les univers partagés de séries?
En parlant d'univers partagés, ça m'a permis parfois, en fait, de me lancer dans une série, mais seulement de manière ponctuelle. Par exemple, pour les experts, lorsque ils étaient gros crossover événements, ça m'est arrivé de regarder juste ces épisodes, simplement pour me... Enfin, parce que le crossover en lui-même est un événement, donc ça permet d'avoir une trame narrative qui est généralement uniquement dans ces 3 ou 4 séries qui s'introduisent entre elles.
Oui, parce que les experts, c'était CBS, c'est ça ?
C'est ça.
Ils avaient fini par... je me demande si le final de la série totale ne rassemblait pas 2 ou 3 équipes.
Le téléfilm ?
Oh. Oui.
Pas vrai, non. Ça rassemblait les personnages des experts en fait sur plusieurs générations comme Geek.
Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ouais.
Et le personnage de Tenterson aussi qui était.
Mais pas New York.
Par contre, ils ont fait des croisements, effectivement, ils sont croisés plusieurs fois, je crois, tout au long des.
FBI aussi.
Oui.
C'est vrai qu'il y a le droit à son petit avec CSI. Mais voilà, donc du coup, effectivement, ça m'a permis. Après, je te rejoins sur le fait que c'est souvent marketing, notamment pour les séries DC de la CW. Alors, a priori, ça devrait changer l'année prochaine, mais du coup, avec l'arrivée de Supergirl sur CW, on a l'impression que Supergirl, le moment où t'as le crossover, c'est dans les 5 dernières minutes de la fin.
Alors, il y a une explication, c'est parce qu'ils savaient pas encore quand ils ont écrit l'épisode et pour cette fois-là que Supergirl allait arriver sur la CW, donc ils pouvaient pas l'entendre.
Enfin, ils ont fait ça pour l'épisode musical.
On va revenir sur ça, oui.
Oui, bien sûr.
Alors qu'ils savaient très bien que c'était sur la même chaîne et c'est
ça. Pour le coup, l'épisode musical, c'était seulement sur Flash.
Oui, mais voilà. Vendu comme un crossover Supergirl Flash.
Alors qu'en fait,
c'est juste un épisode de Flash musical avec l'apparition d'un crossover.
Mais il y a les deux. Non, parce que ça, souvent, c'est aussi les dix, puis après, Tom nous dira 2-3 mots, que l'intrigue de l'un se termine dans l'autre. Souvent, c'est ça. Et c'est vrai que sur l'invasion, on y reviendra sur le gros crossover d'ici. Supergirl servait juste d'amorce et elle est assez peu présente dans l'ensemble des trucs. Tom.
Juste, on me dit que les micros ne fonctionnent pas, est-ce que c'est vrai ou pas ?
Sylvain, apparemment, t'entends super mal.
Ah oui, donc je pense que...
C'est pas grave.
T'as changé un truc ?
J'ai réactivé celui-là, mais après...
C'est con, il disait des trucs presque intéressants, c'est bien.
Censure.
Censure.
Est-ce qu'il n'y avait pas des... C'est on sur on, ouais.
Bon, faut juste bien parler dans vos micros. C'est...
Mais on parle dans nos micros.
Bien, on
parle
dans nos micros. Toi, rapproche-toi vraiment, Sylvain. Colle-toi.
Vraiment pas au-dessus.
Oui, oui, non,
côté.
Mais
non, non. Léo, t'es pas en face.
Bouffer, là.
T'es pas face, le micro, t'es un peu
au-dessus. Bon.
Donc moi, juste pour dire les chiffres des audiences du crossover. Donc le premier, donc, le crossover Invasion, c'était plus 40% pour Arrow. Donc à 4 millions, mais ensuite ils sont revenus à leur audience normale.
Sachant que c'était un épisode spécial pour Arrow.
Arrow a monté de 90% et Supergirl et Legends of Tomorrow, c'était 40%.
D'accord.
Mais après, et pour le Flash Supergirl, donc l'épisode musical, c'est plus 13% en audience, mais seulement 2,7 millions pour Flash. Donc, et une note très très basse aussi selon... Selon les gens qui ont noté l'épisode, c'est le pire épisode de la série.
Mais c'est ouais, souvent, bon.
Pour quelle série ?
Flash. Flash. Mais c'est souvent des épiphénomènes. Hein,
c'est,
dans
ouais, non,
c'est particulier aussi. Là, l'idée d'un crossover musical était particulier.
Ça montre ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste du marketing. L'annonce des épisodes de crossover de DC chaque année. Et à chaque année, ça fait des pics d'audience pour ensuite retomber. Les gens vont juste regarder l'épisode crossover. Ce que oui. J'ai fait exactement. Voilà, j'ai abandonné, Arrow, Legends of Tomorrow. Voilà. J'ai regardé les épisodes crossover pour suivre ce crossover.
Mais j'ai fait un peu comme toi.
Revoir les séries.
Non. Même. Après, j'ai fait un peu comme toi. Ça peut donner l'occasion, quand on a suivi une série, qu'on s'est arrêté. Hein, je prends l'exemple d'Arrow. Alors, Arrow, en plus, cumulait que c'était le 100e épisode de la série. Donc, en plus, il était très bizarre par rapport au reste de l'histoire de la narration d'Invasion.
Tout tourne beaucoup autour d'Arrow. Déjà, rien que le premier, là, qui devait introduire Legends of Tomorrow, c'était. Beaucoup de Arrow et un peu de trucs instillés dedans.
Oui, Arrow, c'est la série phare de.
C'est celle qui a commencé.
C'est la série originale.
Il a pas un traitement qui est franchement égal et du coup, ça reste. Cette interaction entre toutes les séries, ça reste vraiment juste un vrai épiphénomène simplement. Et ensuite, oui, ça retombe parce que Legends of Tomorrow, ça fait un million et demi de spectateurs par épisode. Et là, comme disait Tom, ça monte juste au moment du crossover. Voilà, ça donne pas spécialement envie, et les chiffres le montrent, qui ont de reprendre et de recommencer vraiment la série.
Alors que pourtant, c'est la meilleure série des quatre en ce moment, Legends of Tomorrow.
Parce que c'est Kitsch, Nana.
Non, mais après, ce qui est rigolo, c'est que c'est un truc vraiment. L'histoire de l'univers étendu, du monde partagé, c'est vraiment propre aux comics, principalement, dont c'était aussi un argument marketing. Hein, c'était le fait que quand tu croisais Batman et Flash, ça l'est toujours en plus aujourd'hui, puisqu'il y a en ce moment.
Mais bien sûr, il y a toujours une réflexion marketing.
Donc voilà.
La réflexion qui dépasse.
Mais est-ce que ça peut changer la façon d'écrire les histoires finalement ? Est-ce que ça peut changer la narration d'une série ?
Parce que pour les différentes séries d'ici, a priori, c'est ce qui est prévu l'année prochaine. Parce qu'une fois que Supergirl est bien intégré sur CW, les créateurs ils ont dit on prévoit l'année prochaine de faire un gros crossover beaucoup plus qui implique beaucoup plus tous les personnages, y compris Supergirl. Donc je pense que au-delà effectivement de la question marketing qui arrive toujours en premier dans ce cas-là.
Oui. Sachant que Flashpoint, qui était un événement du début de la saison 3 de Flash, a eu des répercussions sur Arrow.
C'est minime. C'est pas une question sur nul ou pas. C'est comme les crossovers, même s'ils impliquent un peu plus tout le monde l'année prochaine, ça reste des conséquences minimes sur les séries parce qu'elles ont leur propre trame, leurs propres histoires à développer. Et il peut se passer un truc de fou dans ce crossover-là. Soit ce sera réglé à la fin du crossover, soit ce sera réglé petit à petit dans un épisode à la suite dans chaque série.
Donc la preuve, on ne parle plus de ce qui se passe dans l'invasion, on n'en parle plus dans les suite.
Non.
Il y a ça. La fille, c'est la plus conséquence.
Hein. Voilà. Alors que tout le monde a vu des extraterrestres, il y a des villes qui ont été ravagées, pourtant on n'en parle plus.
Flashpoint aurait dû avoir beaucoup plus de conséquences.
Oui, mais
ensemble des séries d'ici.
Mais tu à la fois,
je pense que c'est de couilles tout simplement.
Ça reste aussi.
C'était pas possible.
Il y a ça, et puis ça reste une formule où c'est quand même une série, ça veut dire que tu accroches les gens avec une formule et tu changes pas tout au milieu de saison, voilà, c'est quand même assez rare. On va passer à l'autre univers partagé qui est Marvel, via notamment les quatre séries Netflix qui vont donner les Defenders. Alors c'est pareil, c'est très différent.
On parlait de marketing,
c'est clairement marketing. Quoi.
Alors,
on attend encore de voir ce que ça va donner.
Si c'est juste des personnages connus de Daredevil qui viennent dans les autres séries Netflix,
il n'y a aucun réel univers partagé.
Il y a un univers partagé,
mais tu ne le sens pas.
Non.
Mais à chaque fois, ils te disent c'est un univers partagé entre la télé et le cinéma, et pourtant, il y a
quasiment aucune.
Alors là, je restais sur la télévision.
Oui, mais après,
pour une simple et bonne raison.
Ça a démarré avec Marvel au cinéma et ça s'est
oui.
propagé à la télé.
C'est le même univers,
de
mais
lier de vouloir soi-disant lier les deux, ce qui est.
Je pense qu'il y a un problème de temporalité qui fait que c'est quasi impossible.
Ils essayent de lier, comme tu disais, avec les séries de Netflix, mais pourtant tu sens pas de réel lien. À part comme il disait Sylvain, deux trois personnages qui débarquent dans telle ou telle autre série.
Sinon, vous n'avez pas senti le côté unité. Est-ce que vous avez l'impression, alors, ce qu'on peut reprocher aux séries DC, c'est que finalement, à faire un espèce d'univers partagé, elles se ressemblent. Il y a un côté où quand tu regardes Flash, Supergirl et ça, et à la fois, est-ce que les séries Netflix ont cette même différence, ou est-ce qu'à un moment, ça souffre pas, et on en avait parlé au précédent, je crois, Power Series, souffre pas de la comparaison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'est sortie une série Netflix, on a dit ah bah ouais, mais celle d'avant était mieux ou cette voilà.
La différence, c'est que bon, elles peuvent beaucoup exister entre elles, les séries de DC, tu vois, genre Arrow est arrivé en premier, puis t'as eu Flash, puis dans ce moment, c'est quelque chose qui s'est mis, voilà. Netflix, ça a été quelque chose qui a été institué très rapidement, très très vite. Tout de suite, on t'a dit, ce Daredevil ne sera largement que le premier. Et même, ils ont été dépassés par leur truc, et ils se sont retrouvés à ajouter le Punisher, là. Donc en gros, pour un peu plus essayer de tenir leur calendrier complètement impossible. Et du coup, tu sais que, bah voilà, en plus, t'as Rosario Dawson, là, qui joue Claire Temple, qui passe dans absolument toutes les séries, et qui vient un petit peu faire le lien.
Oui, mais non, mais c'est malin. Mais ça, je trouve ça logique, parce que c'est un personnage dans les comics.
Ah non, mais c'est pas le problème.
Non, bien sûr, c'est le problème que ça ne sert à rien. Elle sert à rien.
C'est-à-dire que, en fait, ils ont un poids tel, tu vois, du côté crossover, du côté, enfin, pas crossover, du coup, du côté univers partagé, que du coup, bah, il y a quelque chose de latent, tu vois, là-dedans. Et tu fais que attendre. Voilà, tu attends de Defender, c'est beaucoup de promesses en fait, quand DC a promis Legends of Tomorrow sur la CW, c'était beaucoup beaucoup de promesses. Là aussi on en a eu énormément quand on a su par exemple comment elle s'appelle, Sigourney Weaver allait devenir la méchante de The Defenders, et pour l'instant on attend toujours de voir ça, c'est-à-dire que ça crée beaucoup beaucoup d'attentes. Tu te dis bon bah tu vas avoir ça, et du coup tu restes un peu frustré aussi du point de vue du bah t'as juste le personnage, genre juste Luke Cage, juste Iron Fist, et t'attends surtout de voir ce que ça va donner au final.
Je suis pas vraiment d'accord sur ça. Je trouve que par rapport aux séries DC où il y a un seul auteur, donc Greg Berlanti
il y a un pool assez serré de surtout
voilà c'est ça sur les séries Netflix, t'as une vision d'auteur pour chaque série. Peut-être un peu moins pour
c'est vrai.
Peut-être un peu moins
c'est
pour vrai. Iron Fist, parce que il n'y a pas vraiment
qu'il y ait
de vision d'auteur
sur Iron Fist, effectivement.
Mais t'as un univers spécial pour Daredevil, t'as un univers spécial pour
c'est vrai.
Pour Jessica Jones, t'as un univers, donc t'as un univers pour Luke Cage, donc t'as quand même malgré le crossover ou l'univers partagé un peu faible, on va dire, parce que c'est juste Claire Temple qui arrive ou Luke Cage qui apparaît un peu dans Jessica Jones. T'as quand même un truc en plus dans ces séries-là, t'as un cachet supplémentaire, t'as une vision en plus.
Comme c'est des tons différents, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un univers partagé? Est-ce qu'ils font partie du même univers? Est-ce que tu le ressens?
Il faut encore voir ce que ça va donner vraiment.
Mais tu le ressens? Oui, mais je trouve que tu le ressens par rapport à la ville aussi où ils sont, par rapport à.
Ils sont tous dans le même quartier en fait, c'est ça?
Ils se rencontrent jamais.
Ce qui est embêtant, c'est depuis tout à l'heure, Léo, tu dis on va attendre ce que ça va donner. Ça veut dire que l'univers partagé, entre guillemets, fonctionne pas, parce que là on attend les Defenders où ils vont bien être tous les quatre. Mais c'est-à-dire pour l'instant, c'était très. Et finalement, ça recoupe un peu ce que disait Sylvain en disant. Romain, pardon, ça coupe, ça revient sur le fait qu'on a quatre chemins qui sont tracés à peu près et qui se touchent très peu.
Quatre chemins et même deux saisons pour Daredevil.
Par contre,
la temporalité, il y a quand même un souci après.
Un léger décalage. Sur Iron Fist, moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est le fait qu'il n'y a jamais quasiment de référence, notamment à Daredevil, qui est théoriquement en train de sévir.
Pas loin.
Je comprends, parce que Daredevil, il sévit la nuit. Et Iron Fist, il sévit le jour.
C'est vrai.
Donc forcément.
On en revient un peu à ce qu'on disait même sur DC, dans le côté où ce qui est choquant, c'est que parfois des événements qui seraient énormes n'impliquent pas trop la ville d'à côté. Voilà. Et là, c'est un côté où ils sont peut-être à quelques rues et que le fait que le mec d'Iron Fist passe tout un temps sans jamais, entre guillemets, pas évoquer, mais enfin jamais évoquer.
Il y a une espèce de dichotomie dans la mesure où il y a un problème spatio-temporel, et à côté t'as Claire Dawson qui fait la navette Rosario Dawson qui fait la navette entre les séries, quoi. Et pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on a, ça et deux trois références sur je connais un avocat qui pourra vous aider, c'est sympa, mais bon, ça devient un peu lourd à la deuxième série. Et donc
c'est un gros plein d'œil appuyé,
voilà, c'est à dire que là aussi, comme Arrow dans le Arrowverse, du coup, et c'est pour ça qu'on a ce nom-là, il y aurait un Daredevilverse, parce que c'est il y a tellement le poids de Daredevil derrière que bah de fait, et en plus les séries ont tous une certaine ressemblance. Je suis d'accord, il y a beaucoup de thèmes différents, c'est-à-dire que Jessica Jones c'est plus bon le côté féminisme, etc. Il y a la Blaxploitation du côté de Luke Cage, mais ce qu'on attend c'est voilà, enfin c'est mais il y a toujours voilà le côté Daredevil, et il y a surtout voilà ce que je veux dire le côté sombre en fait, le côté très vision d'auteur, très un peu dark qui est censé elle se différenciait d'une autre série qui gère un univers partagé qui est Agents of S.H.I.E.L.D. mais là plus à côté du
voilà, alors c'est ça, c'est pourquoi Agents of S.H.I.E.L.D. elle partage son univers avec lui, hein, les films ils en ont absolument rien à foutre.
Mais non, ils peuvent pas, non mais c'est pas tenable sur le calendrier, c'est fini.
Agents of S.H.I.E.L.D. c'est un peu le mendiant dans la rue qui fait ah de l'argent, mais personne, tout le monde l'ignore, et ce qui l'ignore c'est les films en fait.
Mais non, mais
c'est le traitement justement des agents du S.H.I.E.L.D. sur le reste. T'as l'impression qu'il y a l'univers de ABC pour Marvel et il y a l'univers de Netflix pour Marvel. Et en fait, les deux, c'est pas possible. C'est impossible qu'elles puissent se rencontrer alors que, putain, merde, quoi. Mais, alors, Marvel et Disney, c'est la même boîte. Quoi.
Je vais te faire deux éléments, après je vais passer à autre chose. Le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la temporalité cinéma est tellement radicalement différente de la temporalité télévisée que c'est impossible pour les uns d'attendre les autres.
Mais oui, mais dans les Agents du S.H.I.E.L.D., je suis désolé, mais je rejoins Romain dans le fait qu'il y a des épisodes qui ont été faits pour coller
oui,
avec
mais,
le
film. Oui, mais oui. T'as vu, à chaque fois,
ils ne prennent pas en compte. La série le prend en compte.
Après, c'est logique que les films ne prennent pas en compte.
Oui, non, mais.
Mais c'est quand même sur les Inhumains, il a failli avoir un film.
Ah oui, alors pour les Inhumains,
oui,
non, c'est un peu abusé. Même le film, donc du coup, devient une série, pour la rentrée prochaine, et dont les deux premiers épisodes seront diffusés
très
au cinéma.
Ficelle, hein.
Oui, là,
sachant qu'ils avaient introduit les Inhumains dans la série, s'ils continuaient de faire le film Inhumain qui allait sortir en 2019 ou 2020, je ne sais pas exactement, ils n'allaient pas prendre en compte Agents of S.H.I.E.L.D., donc c'est un peu con, mais. Voilà, je pense
finalement, il y a quand même le calendrier.
Après, ça aurait fait un peu de cheap.
Voilà, le calendrier peut générer des problématiques comme ça. Voilà. J'ai deux petites questions sur le fait que, est-ce qu'à un moment, sur l'effet Iron Fist, alors, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas une lassitude du public quand même, au bout d'un moment? C'est le quatrième personnage?
Alors, je pense pas que ce soit une lassitude.
Je sais pas. Comme je disais, il y a une vision différente pour chaque série, mais en fait, la recette est la même, pour les quatre séries. C'est-à-dire
que.
C'est
toujours ce côté dark.
Non, c'est pas forcément le côté dark, parce que dans Iron Fist, on n'a pas forcément ce côté dark.
Oui, mais l'origine story quand même.
C'est pas ce qui ressort. Oui, non, oui, et c'est pas ce qui ressort pour Luke Cage non plus. Mais voilà, t'as une origin story, le mec apprend à contrôler ses pouvoirs, il se découvre un ennemi, mais 13 épisodes ou 12, je sais pas exactement, c'est trop long.
Genre pour ne serait-ce que
parce
t'as au
milieu,
le problème là,
pas grand chose,
le costume, quoi.
Et c'est assez lent.
Par exemple, alors autant ça pouvait marcher au début sur Jessica Jones et Daredevil qui ont été bien accueillis, pour Luke Cage, il y a un problème, c'est-à-dire que. Très vite, ils sont arrivés visiblement à court d'idées et ils se sont retrouvés à couper au milieu de la série et à faire complètement autre chose dans la deuxième partie de saison, et du coup à éculer un peu leur propos, et du coup bon bah parfois ça donnait l'impression de tourner à vide. Donc oui, il y a un problème au niveau des 13 épisodes, ça commence à devenir
et
beaucoup.
Et je pense aussi qu'Iron Fist souffre beaucoup. Enfin, Iron Fist et même Jessica Jones et
Daredevil.
Luke Cage, merci. Je souffre beaucoup du fait que Daredevil a été énormément apprécié. Et
c'est le problème.
À juste titre, parce que c'est une très bonne série. Mais donc, du coup, ils sont partis avec cet héritage-là. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le droit au même traitement au final. Ouais. Donc, autant Jessica Jones, il y avait un esthétisme qui était différent, qui arrivait. Alors, voilà, c'est quand même.
Le côté féminin, surtout.
Voilà, ouais. Alors que Luke Cage et Iron Fist, surtout
Luke Cage,
Iron Fist.
Un esthétisme différent aussi.
Oui, mais c'est quand même assez pauvre au niveau scénario, c'est pas ouf.
Une esthétique.
Oui, tu vois, c'est pas facile à dire, on est d'accord.
L'esthétisme n'existe pas.
Pour moi, il y a un vrai problème, effectivement. Sur Iron Fist, on a l'impression qu'ils ont déjà tout épuisé. Et du coup, moi je suis désolé, mais depuis Iron Fist, je n'attends plus du tout The Defenders, quoi.
Mais enfin, le problème,
moi je trouve que ça peut être intéressant de voir
Arnaud,
les quatre.
Arnaud. Le problème, je pense aussi, c'est que comme on dit que c'est des univers partagés entre toutes ces séries Marvel, le public a des attentes quand il y a une nouvelle série Marvel qui sort. Alors qu'avant, quand il y avait, par exemple, quand tu faisais une série, tu faisais un spin-off, tu t'attendais, t'avais des attentes par rapport à cette série, mais t'avais pas d'attentes par rapport à la série précédente, forcément. Là, c'est un univers partagé, donc tu sais déjà ce qu'il y a eu, et tu attends à une évolution qui va dans le même sens. Et du coup, peut-être que ces séries ont trop d'attentes du public, et forcément, au bout de 3-4 séries, le public vient être lassé et déçu.
Alors j'ai une petite question, puis après on va se rapprocher doucement de la fin. Est-ce que le modèle, est-ce que la diffusion, Netflix, parce que le modèle de diffusion SVOD change cette idée-là. Je reprends l'exemple de DC, les comics tels qu'on les connaît. Presque.
Débat, bien
presque. Le côté répétitif 24 épisodes, ça fonctionne pas mal avec un univers partagé, parce que tu y reviens, tu repars, etc. Est-ce que le phénomène de diffusion de Netflix aide ou finalement était un problème pour un univers partagé? Est-ce que d'avoir des blocs à chaque coup de série, est-ce que c'est un problème?
Là, ça dépend de la politique de la chaîne, surtout. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que Netflix, ils ont... pas une chaîne plutôt pour Netflix, en effet.
Mais je trouve que c'est surtout l'utilisation en fait, de l'univers partagé qui bloque plus que la façon de diffuser les séries.
À partir du moment où tu annonces un univers partagé, tu crées une attente derrière pour le spectateur et qui va et qui attend d'en voir le truc. C'est-à-dire que Defenders, de toute façon, quand est-ce que c'est arrivé? Daredevil 2014, peut-être, quelque chose comme ça.
2015,
voilà. Donc, on a 2 ans d'attente avant que The Defenders... entre la première saison et la première saison de Defenders, tu auras 2 ans d'attente et tu crées quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser au personnage, tu vas le voir, etc. Et tout le défi, c'est d'intéresser suffisamment au personnage pour que ça se tienne en soi, ce que Daredevil saison 1 a bien fait, ce que Jessica Jones a bien fait. Après, en effet, Luke Cage, Iron Fist, il y a eu plus une certaine lassitude, mais en effet, une envie vraiment de constant renouveau, parce qu'en plus, ils ont mis la barre très très haut. Il n'y a pas photo au niveau, boulot, investissement entre Daredevil et Agents of S.H.I.E.L.D. Donc,
c'est pas les mêmes moyens, donc.
Non, c'est pas les mêmes moyens.
T'as moins le sentiment de continuité, je trouve, par exemple.
C'est ça, je pense que le système de Netflix pour l'univers partagé fonctionne pas super bien. Parce que justement, t'as la série qui sort, tu vas la binge-watcher, et en fait, ça permet pas de vraiment construire un univers sur la durée, en fait, parce que tu regardes la série sur plusieurs épisodes.
Tu peux pas faire crossover, en fait.
Déjà, il peut pas y avoir de crossover, mais tu regardes les épisodes sur quelques jours, ensuite ça disparaît, et quelques mois plus tard, l'univers revient à nouveau. Alors que si c'est sur la continuité, sur la saison, sur toute la saison de télé, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là tu crées vraiment tu mets vraiment en place un univers et tu peux plus sentir cette cohérence d'univers partagé.
Le côté quotidien, oui, c'est ça.
La lassitude se voit aussi, notamment chez Marvel, au cinéma, les dernières Origin Story.
Il y a un autre exemple aussi qui est peut-être moins connu, qui est un mélange entre, enfin, qui est basé sur la ville de Chicago, où il me semble qu'on a Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, il en manque un.
Chicago Justice,
Chicago Law, à la rentrée.
Ça, c'est. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça peut plaire au public? Est-ce que ça.
Ça fonctionne, donc ça plaît forcément au public. Il y a toujours eu des trucs comme ça.
Mais regarde Law and Order, c'était le même système.
C'est le même créateur. Exactement.
C'est le même créateur.
Il a juste déporté à Chicago.
Mais là, je trouve qu'il a poussé loin quand même le truc.
Mais ça marche. Donc, on revient à la question de marketing, on revient à la question d'argent, ça marche.
Mais au final, c'est pas réellement des univers partagés. Moi, je vois plus ça comme.
Ah si, parce qu'ils
vivent tous dans le même univers.
Il y a beaucoup de crossovers.
Oui, oui.
Parce que moi, je voyais plus ça comme une succession de spin-off qu'on avait avant et pas réellement un univers partagé comme. On discute depuis une demi-heure. Il y a beaucoup de crossovers.
Régulièrement.
Parce qu'ils apparaissent donc dans une première série, ils se déclinent ensuite, comme un spin-off.
Mais c'est vrai qu'ils.
Mais ils se rencontrent souvent dans des épisodes.
C'est plus facile
dans des
pour
événements,
Chicago. Oui, que pour les. Et Chicago Law, Chicago Justice à la rentrée, ça sera forcément beaucoup plus facile parce que tu passes des flics à la justice. Mais après, t'as Chicago Med et Chicago Fire qui se complètent aussi très bien. Donc c'est vraiment tout est fait pour que ça s'imbrique assez facilement comme la Herder
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de références dans les épisodes hors crossover qui créent vraiment un univers
maintenant,
partagé?
Au tout début non, maintenant oui.
D'accord.
Intéressant. Et on m'a évoqué, je crois que Tom m'a évoqué un futur formidable qui est un crossover peut-être qui débouchera sur un univers partagé entre IY5O et MacGyver 2016.
Quelle horreur.
Oh, bon moins. Dieu, et je crois qu'il y en a un troisième, non Tom? Et Scorpion et Say Yes.
C'est clairement américain.
Ça fait pas rêver, ça?
Mais c'est, oui, voilà, ouais.
C'est pas un poisson d'avril, ça, parce que.
Aller chercher le truc comme ça, c'est très américain. C'est vraiment, il y a le marketing d'abord, et ensuite, chose qui est imbriqué.
Après, je comprends qu'on puisse, par exemple, faire un crossover entre NCIS Los Angeles et Hawaii Five-O, parce que c'est des univers assez légers, qui traitent le même thème. Donc, c'est des enquêteurs, des criminels, plutôt, il y a souvent des blagues ou souvent de l'humour. Donc ça peut être intéressant, même si c'est pas forcément le même univers. Bon, mais c'est le même univers du coup, vu qu'ils font un crossover. Mais ça peut être intéressant de faire des mélanges comme ça auxquels on n'avait pas pensé.
Est-ce qu'une chaîne aujourd'hui pourrait se dire je crée toutes mes séries qui évoluent dans le même univers, même des séries un peu différentes? Est-ce que, vu la force qu'a qu'ont les...
Bah, tu l'as dit au tout début, Columbo et...
Non, Arabesque et Magnum.
Pardon. Ouais.
Oui, oui, à chaque fois, c'était des histoires.
En même temps, c'est peut-être les... Non, j'avais fait une blague de merde, mais c'est peut-être juste Arabesque qui avait envie d'une glace et du coup, ils ont emmené Magnum pour...
Voilà. D'accord, ok.
C'est bien que retenir. C'est bien que tu nous aies dit que c'était raté avant.
Il n'a pas eu sa quota de blague.
C'est l'animateur du débat suivant. Voilà.
Non, mais ça pourrait effectivement tenter une chaîne de gérer tout ça.
Romain a jeté un froid.
Ça pourrait tenter une chaîne de générer Merci tout ça après. Après, ça peut donner des trucs. Je pense notamment là, cet exemple où est-ce que c'est la façon aussi de ranimer une série qui va pas bien en disant bah, tiens, on va lui faire croiser des trucs
c'est
comme
pour
ça.
Créer, de toute façon, comme tu disais, c'est pour créer l'événement, c'est pour créer un truc marketing et voilà, ça peut mais ramener des gens ou pas. Mais
pour
voilà,
répondre à ta question. De créer un univers partagé à toute une chaîne commune, je pense que c'est vraiment pas possible puisqu'il y a tellement de tons différents, de genres différents. Tu peux pas avoir dans le même univers d'une chaîne une série.
On s'en rapproche avec CW, hein, je veux dire.
Oui, non, mais tu peux pas avoir. Je prends l'exemple de, je sais pas, une chaîne qui va diffuser un drama et à côté une série fantastique avec des zombies. Non, pas des zombies, c'est pas le bon exemple, mais avec, je sais pas, des vampires, hein.
Oui, oui, non, mais
tu peux pas lier tous les univers. Hein.
Tout va pas fonctionner et je suis très inquiet de voir Jane chez Arrow. Ça m'inquiète un peu aussi. Jane the Virgin. Je suis pas hyper rassuré.
Attendez que Raphaël casse la gueule d'Arrow. Vous allez voir que
les crossovers, c'est
vous allez pas être.
Les crossovers, c'est quand même une plaie pour les diffuseurs français de toute façon.
Ah bah, oui, oui, bien sûr.
Les experts et bien ils participent par UNCIS, etc. Enfin,
non,
tout,
mais même avec
surtout quand c'est pas acheté par la même chaîne.
Flash a été diffusé et même beaucoup trop longtemps après Arrow et quand il y a eu un crossover entre les deux,
ça a plus de sens.
Ça ressemble à rien.
Il y a que les Américains. Bon, enfin, ça encore, nous en France, on n'est pas spécialement.
Entre Mimi Mathy et Plus Belle la Vie, je ouais, c'est ça. Attends encore, ce sera un crossover événement.
Ah bah putain, ouais.
Bon, on arrive sur la fin tranquillement. Alors, si l'univers est un plaisir pour le public connaisseur et gourmand, je pense qu'il y a un risque que le public de passage soit trop rebuté aussi par la complexité. Ça veut dire que quand on lui annonce qu'il faut avoir vu 4 séries pour en voir une, il va peut-être renoncer. J'en reviens à ma question, est-ce qu'il va faire la transition pour le débat suivant? C'est ça tout le but. Est-ce que les nouveaux modes de diffusion comme les SVOD vont changer ça? Netflix a prouvé, on va voir s'ils peuvent recommencer et si Defender va être un succès ou pas. Et pour faire le point sur Netflix, eh ben c'est Romain qui va venir.
Absolument.
Tout de suite. Voilà.
Cette transition est...
Merci beaucoup, messieurs.
Juste pour parler encore des crossovers. Non, c'est juste pour faire la transition, que tout le monde s'installe. Power Ranger in Space a fait un crossover avec les Tortues Ninja.
Oula. Ouais.
Aïe.
T'as des crossovers chelous aussi dans les comics.
On a
Batman,
eu
le Tortue Ninja.
Oui,
on a eu le flic de Shanghai.
Avec Demain la Une.
Avec Demain la Une et
Chuck Norris.
Walker Texas Ranger.
Mon Dieu, que du rêve.
Et T-Bag est apparu dans Breakout Kings.
Ah mon Dieu. Oui,
et Arnold et Monsieur Drummond ont fait coucou dans le dernier épisode du Prince de Bel-Air.
Oh la vache.
Qu'est-ce que j'aimais pas.